retrouver, amis auditeurs, à Fès, au Maroc, entre puissants orages et soleil de plomb. Nous continuons de nous interroger sur les échanges interafricains à l'abri sous les arcades du luxuriant jardin du musée Bata, dans les pépiments d'oiseaux, avec au loin le son des conférenciers des matinées du forum, dans l'esprit de Fès, du festival des musiques sacrées, au miroir de l'Afrique, cette année de toutes les Afriques, l'Afrique méditerranéenne, l'Afrique subsaharienne, au destin intimement lié depuis toujours et aujourd'hui plus encore, à l'heure de la mondialisation, comment favoriser la circulation des hommes, des idées, des savoirs, des arts, des musiques et des cultures, notamment pour les jeunes générations en marche sur tout le continent. Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités qui participeront mercredi, ici même à Fès, au musée Bata, à une table ronde sur les enjeux contemporains de l'Afrique, le politologue Mohamed Tozzi, Pinit Chantalanxi de l'UNESCO à Rabat, Majida Bargache de l'Université de Virginie aux États-Unis et celui qui s'est fait le porte-parole de la jeunesse africaine, le musicien Tikenja Fakoli, autour de la question « Comment faire fructifier les échanges sur le continent ?» Bienvenue ici à Fès. Bonjour Tikenja Fakoli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Fès, même si la météo et l'orage d'hier vous ont empêché de jouer sur la scène de Bab Makina. Ce sera partie remise. Un bazariste de la Médina de Fès disait que la musique sacrée, elle est venue du ciel avec l'orage hier soir. Mais on peut heureusement sur RFI entendre votre voix. L'unité et la diversité de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire au Mali, hein, vous deviez jouer avec après Oumou Sangaré. L'entendre ici au Maroc, c'est important.
C'est important parce que c'est cette diversité-là qui fait la force de l'Afrique. Donc le fait de retrouver la sœur Oumou Sangaré, moi-même et même d'autres groupes du Burkina Faso et presque toutes les régions de l'Afrique, je pense que c'est important. Ça prouve que ce continent-là a une force parce que un continent qui est fort culturellement, c'est un continent qui ne peut pas, si se retrouve, ne peut pas régresser.
Ne peut pas régresser. Nous sommes ici pour en parler, pour voir les échanges intercontinents au Forum de Fès. Mohamed Tozzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'Université de Casablanca et d'Aix-Marseille, chercheur au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie. Vous dirigez l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Vous avez tenu à mettre en place une chaire des études africaines. Alors pourquoi ? Pour coller à une réalité qui n'est pas pensée, pas prise en compte, celle du continent dans son ensemble ?
Bon, la mise en place de la chaire était un impératif auquel on ne pouvait pas échapper, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pour reconduire un peu une tradition marocaine très ancienne des relations avec l'Afrique, mais aussi, et dans le cadre des sciences sociales, pour repenser la façon dont on organise les savoirs au niveau de l'Afrique. Comme vous le savez, le Maroc, dans la taxinomie globale des qui fait qu'on organise les centres de recherche, mais aussi qu'on organise la distribution des postes au niveau des organisations internationales, ou même la façon de penser au niveau des différents ministères des Affaires étrangères, classe le Maroc, comme le Maghreb dans son ensemble, dans les départements Middle East.
Moyen-Orient. C'est anglo-saxon ou européen.
Donc on le classe à ce niveau, et cette classification, bien sûr, elle rend compte d'une relation forte du Maghreb avec le Mashrek, mais elle met en place, met en branle un type de savoir qui est plutôt orientaliste, avec ce qu'il a de bien et ce qu'il a de critiquable.
Et on oublie,
la profondeur justement verticale.
Verticale, c'est ça, hein, du nord au sud.
Du nord au sud. Alors, bien sûr, la césure est une césure d'abord coloniale, même si un retour sur la façon dont les empires coloniaux étaient organisés relativise un peu cette césure, parce que la France, qui avait un peu colonisé le Maghreb et le Soudan, ce qu'on appelle le Soudan français, même si au niveau de l'organisation de la colonisation, penser l'Afrique à part, n'a pas empêché les infiltrations, j'allais dire, des concepts et des façons de faire.
Comment penser l'Afrique dans son ensemble ? Bonjour, Pinit Chantalanxi.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes philosophe de formation et c'est vous qui coordonnez à Rabat, depuis le bureau de l'UNESCO au Maroc, le dialogue philosophique Sud-Sud. Et là encore, il s'agit de faire entendre et de partager des pensées en mouvement, celles des philosophes de tous les Suds, pour les faire découvrir aussi aux jeunes de tous les Suds.
C'est cela. C'est à l'UNESCO, effectivement, nous parlons depuis quelques années maintenant de ce qu'on appelle le Grand Sud, c'est-à-dire toute cette partie du monde qui, disons, ont subi, enduré, vécu dans des moments historiques de domination culturelle, politique, économique, et qui aujourd'hui eh bien est appelé à se fluidifier un peu entre eux, puisque pour vous donner un exemple très simple, c'est que par exemple un pays comme le Maroc ou comme le Sénégal, le Côte d'Ivoire, ignore en général totalement ce qui se passe philosophiquement, politiquement, en Thaïlande, au Laos, en Chine, bon, moins en Chine maintenant, parce que ça change. Mais c'est pour dire que les lignes de frontières culturelles, philosophiques et intellectuelles en général commencent à se bouger maintenant au XXIe siècle, et l'UNESCO voudrait accompagner un peu ce mouvement. Alors bien sûr, avec notre mandat, qui est une organisation qui s'occupe de l'éducation, la science et la culture, et nous voudrions réfléchir avec les intellectuels du continent sur les meilleures modalités de faire connaître le patrimoine intellectuel et philosophique de l'Afrique dans les autres régions du monde.
Comment faire rayonner cette Afrique, hein, c'est ça. Hein.
Comment faire rayonner cette Afrique, surtout avec le potentiel intellectuel énorme de ce continent-là, et qui malheureusement est souvent ignoré ou en tout cas méconnu dans d'autres parties.
On va essayer de revenir là-dessus. Bonjour Majida Barghash.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes enseignante à l'université de Virginie aux États-Unis. Vous êtes chargée des initiatives internationales et vous revenez notamment chaque année au Maroc avec des groupe de jeunes étudiants pour favoriser, promouvoir justement les échanges, alors pour le coup nord-sud aussi, sud-sud, nord-sud, aller un peu dans tous les sens.
Dans tous les sens, et je ne peux pas m'empêcher de penser au pays et au continent dont je viens quand je vois ce qu'on fait pour nos étudiants à l'Université de Virginie. Donc ça fait...
Il n'y a pas d'égalité des chances.
Il n'y a pas d'égalité des chances, c'est bien certain. Dans un monde qui est si connecté aujourd'hui, comment est-on en train de former ces jeunes qui sont l'avenir de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on leur offre? Quelles sont les compétences internationales qu'ils vont avoir? C'est, à mon avis, proche de zéro, à part une petite élite qui a la possibilité d'être exposée à des études à l'étranger, qui va avoir la connaissance d'autres cultures que la sienne. Mais en ce qui concerne la masse, il y a très peu de chances. Il y a juste ceux qui risquent leur vie pour essayer d'aller ailleurs, mais en tous les cas, en ce qui concerne nos étudiants, et même s'ils étudient dans leur pays d'origine, que ce soit au Maroc ou au Sénégal, ils seront en interaction avec le monde, que ce soit dans le commerce, dans l'industrie, dans la diplomatie. Alors que voulons-nous faire d'eux, et vers où les dirigeons-nous
autour de la question comment faire fructifier les échanges sur le continent africain? Je vous pose tout de suite quelques pistes de réflexion sonore dans l'esprit de Fès et de ses rencontres sous les arbres à Palabre du musée Bata, avec le mix dans l'esprit de Fès l'Africaine de Guillaume Ploquin.
L'échange, c'est toujours pertinent, parce que c'est toujours, on peut avoir d'autres idées pour essayer d'améliorer nos connaissances.
On ne comprend pas l'histoire intellectuelle du continent africain si on ne comprend pas que le Sahara, ça a toujours été un espace parcouru dans tous les sens, du nord au sud et du sud au nord.
Mesdames et messieurs, au forum de 16, une pléiade d'intellectuels de renom débattront de la singularité de la relation de Fès avec son sud et de problématiques historiques et contemporaines.
Il y a finalement beaucoup plus de mouvements qu'on ne pourrait l'imaginer, et c'est un mouvement qui se fait de façon très importante à travers les arts, à travers la culture.
L'histoire de la philosophie a suivi des tours et des détours. On peut avoir une histoire qui mènerait, par exemple, d'Athènes à Bagdad, à Cordoue, à Tolède, à Fès, à Tombouctou, par exemple.
Je pense que mon avenir, je le vois ici, parce que, à mon avis, s'il y a quelque chose à faire, c'est ici, sur le continent africain, l'Afrique du Nord.
Je travaille en Afrique ici. Je sais que dans l'avenir, on aura notre mot à dire.
L'Afrique est un continent. Il faut essayer de considérer l'Afrique aussi dans toute son étendue. Et il me semble qu'il y a de plus en plus de recherches qui vont aussi dans ce sens de recoller les morceaux de l'Afrique.
Comment recoller les morceaux de l'Afrique? Il faudrait peut-être d'abord commencer depuis Fès, où nous sommes, à le penser. C'est ce que vous disiez, Mohamed Tosi, comme un continent.
Oui, il faut le penser comme un ensemble, comme un, et surtout le penser dans la longue durée, pas par rapport aux séquences historiques très récentes. Le penser pratiquement depuis la naissance de l'Homo sapiens et cette circulation vers le monde, il ne faut pas oublier cela.
Notre... Et le repenser cela aujourd'hui, à la lumière justement de tout ce passé très lointain, oui. Complexe, compliqué.
Il y a deux niveaux. Il y a la façon de le penser, de le repenser par rapport à cette longue durée, et il y a la façon de prendre en charge les dynamiques actuelles aussi. Et donc les dynamiques actuelles, parce que les figures de l'interaction, de cette interaction forte, sont des figures stigmatisées, parce que la figure de l'interaction, c'est la figure du migrant, et cette figure du migrant est pensée comme une menace, pas uniquement par rapport à l'Europe, mais même par rapport à l'Afrique elle-même.
En même temps, ici au Maroc, les frontières s'ouvrent, se sont ouvertes, hein, Tikenjach ont ouvert les frontières, elles se sont ouvertes vers l'Afrique, depuis l'Afrique, et puis elles se ferment du côté de l'Europe aujourd'hui.
Oui, et y a, c'est justement ce paradoxe, ça se ferme du côté, disons la frontière européenne a descendu un peu vers le sud, et elle est descendue avec à la fois un financement, avec des moyens, etc., pour lever plus haut le mur de l'Europe.
Mais vous dites, il faudrait changer au fond la figure, justement aujourd'hui l'Africain est vu comme un migrant.
Essentiellement il est vu comme...
Or ici, à fait, on se rend compte de la richesse.
Il est vu comme un migrant, y compris, comme je l'ai dit ici. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est aussi le Maroc, et c'est aussi le Maghreb, et cette africanité, elle est inscrite dans, j'allais dire, dans les gènes de cette population, pas uniquement aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très long, dans la structure même de la population, dans la structure des valeurs et des représentations, dans le rapport au monde, mais il y a une sorte de déni d'africanité
Qui est à questionner aujourd'hui.
Qui est en train d'être dépassé, parce qu'on met en avant les dynamiques économiques, qu'on met en avant le concept de plateforme pour l'Afrique, le concept de hub. Mais alors qu'elle est là, parce que au même moment où on est en train de deviser de façon très savante et très agréable sur l'Afrique ici, on fait 400 mètres vers le centre de Fès et au premier feu rouge,
on voit des migrants africains,
pas comme les migrants, généralement c'est des élites de ces pays, c'est des gens formés, éduqués, les plus entreprenants, les plus dynamiques qui sont là, et malgré les structures de prise en charge, pas de ce problème, de cette opportunité,
reste très faible. Tikenja, ce déni d'africanité ici, vous le sentez, ou vous sentez que ça bouge au Maroc?
Je suis pas resté longtemps pour savoir ça, mais ce que je sais, c'est que voilà, tout à l'heure quand je venais, j'ai vu des jeunes, le taxi s'est arrêté au feu pendant 2-3 minutes, et j'ai dit les gars, si ça va pas, retournez à la maison. Et c'est ce que je leur ai dit, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que notre place, c'est en Afrique. La place de tous ces jeunes-là, c'est en Afrique et pas ailleurs.
En Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique.
Le jeune marocain, je pense que sa place, c'est ici. Je suis parmi ceux qui pensent qu'ils ont le droit de partir, mais nous avons un rôle à jouer ici. Et il faut qu'on reste, parce que si nos ancêtres étaient partis, peut-être que l'esclavage allait exister encore. Si nos parents avaient tous plié bagages pour aller ailleurs, je pense qu'on allait être encore colonisé. Donc c'est mon discours, moi c'est le discours que je tiens devant les jeunes quand je les rencontre. Je sais que peut-être que ma position aujourd'hui, elle peut paraître plus facile parce que je suis un artiste connu, je gagne ma vie, mais je dis de toute façon, pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir.
C'est en Afrique que ça se passe, c'est en Afrique que nous sommes, ici à Fès, l'Africaine, avec une création originale que je vous propose dans les musiques du Festival des Musiques Sacrées de Fès, celle du Cubain Omar Sosa et du danseur Tamengo. Ça se passera ici, sur la scène du Musée Bata où nous sommes. Tout de suite, sur les ondes de RFI, on écoute Omar Sosa.
Fill me with your inner peace, keep me right. something that we're playing. I think I'm ready. When I be.
Avec le cubain Omar Sosa sur RFI au Festival des Musiques Sacrées de Fès et à Fès au Miroir de l'Afrique cette année. Nous tentons, c'était la question du jour, de recoller les morceaux de l'Afrique. Comment, Majida Bargage, comment recoller les morceaux de l'Afrique?
Je crois qu'elle se recollera, ou les morceaux se recolleront par la mobilité. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Et comment ça se fait que ce Sahara... où les gens voyageaient dans des conditions épouvantables, était plus fluide qu'il n'est aujourd'hui. Donc il s'agit bien de barrières mentales qu'il va falloir abattre ici. Alors il y a en ce moment une course aux compétences globales. On est dans ce monde interconnecté. Je sais que le mot global est très mal vu de ce côté de l'Atlantique, mais en tous les cas, il y a une connexion certaine. Et à part certaines compétences très pointues, certains informaticiens, certains médecins, nos étudiants ne peuvent pas aller faire des stages ailleurs. Ils ne peuvent pas.
Ils sont coincés dans leurs frontières.
Ils sont prisonniers de leurs frontières, à moins de risquer encore une fois, comme on l'avait évoqué auparavant, leur vie. Mais les étudiants américains, les étudiants européens vont travailler en Asie, vont travailler en Afrique. Aujourd'hui, les étudiants américains et européens ont plus de compétences sur le marché du travail ou de connaissances en tous les cas sur le marché du travail africain que nous autres Africains. Et il ne faudrait pas laisser les autres nous dire qui nous sommes ou comment travailler avec un frère voisin. Donc il y a
des pistes pour ça. On va essayer de les développer en deuxième partie, j'imagine. Mais il y a des pistes pour plus de mobilité.
Il y a des pistes et en dehors des études, les stages. Je pense que c'est important. C'est une des priorités de l'employeur. Il regarde où a travaillé l'étudiant auparavant. Quels sont les stages
Et que tous puissent bénéficier des stages. Donc dans tous les sens. Hein, sud, sud, nord, sud, sud, nord, et encore plus si l'on pouvait l'imaginer.
Alors l'hémisphère nord l'aurait fermé. Les histoires de visa, dire qu'on va envoyer un étudiant du Bénin faire un stage à Paris, il y a peu de chances qu'il obtienne un visa. Alors, soyons les experts de notre propre continent. Non seulement l'étudiant marocain qui va faire un stage au Sénégal, mais pourquoi pas au Ghana? Parce qu'au Ghana, il va revenir aussi avec l'anglais en plus. Il y a des possibilités.
Alors, il y a des possibilités dans toutes les langues et dans toutes les langues de ce continent. On va y revenir autour de la question comment faire fructifier les échanges sur le continent africain. Nous continuons de nous interroger depuis les jardins du Palais Bata à Fès. Suite dans 3 minutes, on se retrouve juste après le flash d'info pour explorer justement toutes ces pistes possibles à imaginer, à inventer interafricaines. À tout de suite.
D'où ça vient?
Fès.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie dans les jardins du Palais Bata à Fès, au Maroc, dans ce laboratoire d'idées et d'esprit libre rassemblé au forum du Festival des Musiques Sacrées. Au miroir de l'Afrique, cette année, nous sommes en compagnie du musicien Tiken Jafakoli, du politologue Mohamed Tozi et de Majida Bargash de l'Université de Virginie aux États-Unis et de Finit Chantalansky de l'UNESCO à Rabat autour de la question comment faire fructifier les échanges sur le continent africain. Écoutez ce qu'en pensent trois jeunes étudiants et étudiantes de l'Université euro-méditerranéenne de Fès, croisés ici même dans ces matinées du forum. Issa vient du Sénégal, Imane et Fatima Zahra, elles sont de Fès. Regard croisé sur leur présent et leur avenir respectif, ici ou ailleurs.
Mon avenir, je le vois ici, parce que, à mon avis, le marché européen, c'est déjà un marché qui est assez saturé. S'il y a quelque chose à faire, c'est ici, sur le continent africain, l'Afrique du Nord.
Je suis sénégalais, je viens du Sénégal où j'ai eu ma licence en physique-chimie. Maintenant, on m'a proposé de faire un master ici en énergie renouvelable, un master que je trouve très intéressant. C'est un partenariat en quelque sorte entre le Sénégal, l'université Gaston Berger du Sénégal et l'université euro-méditerranéenne de Fès. Mon avenir, pour l'instant, si j'ai mes compétences, je vais essayer que ce soit en Afrique, en Europe ou même dans les autres continents, voilà.
Là, il y a vraiment des vrais échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, aussi des subventions. Donc, pourquoi pas développer ces domaines-là au niveau de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud? On a envie de donner une image d'une Afrique forte, d'une Afrique qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer. Donc, c'est très bénéfique pour nous d'être ici aujourd'hui.
D'une Afrique forte et qui veut apprendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pénit Chantalansky?
Bah écoutez, je crois qu'on peut être inspiré par ces paroles, par un espoir. Je crois qu'il faut un espoir aujourd'hui parce qu'il y a de l'optimisme. Je dirais qu'il y a de l'optimisme parce qu'il faudrait revenir sur les fondamentaux. Et les fondamentaux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Notamment pour la jeunesse, c'est que le continent compte 75% de sa population qui a moins de 35 ans. Cela veut dire qu'il y a...
Le continent africain, ensemble.
Absolument, en tant que continent. Et donc un potentiel d'apprentissage, d'innovation, de créativité énorme et qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, je crois, saisir et pleinement déployer. L'autre opportunité, c'est que je crois qu'il y a aujourd'hui en Afrique beaucoup d'instruments normatifs régionaux. Je cite qu'un exemple, par exemple la charte pour la renaissance culturelle africaine, qui a été ratifiée par beaucoup d'États membres de l'Union africaine en 2006 et qui stipule et encourage très fortement les États membres à développer la culture, les arts et l'éducation en tant que vecteur de développement et d'échange interculturel. Donc ça, ce sont des instruments politiques sur lesquels les citoyens peuvent également appeler leurs États à rendre compte et à favoriser.
Et dans le même temps, Pénit Chantalansky, vous nous disiez, ça fait partie de votre programme aussi à l'UNESCO, à quel point on était tous, et les jeunes en particulier, ignorants des autres cultures du Sud. C'est-à-dire, on l'a évoqué hier également avec le philosophe Souleymane Bachardian, c'est-à-dire la culture, la philosophie, mais on connaît celle de l'Europe, en gros, elle vient de la Grèce, et puis celle des Suds, de l'Afrique, comme de l'Asie, comme de l'Amérique du Sud, on l'ignore. C'est ça aussi qu'il nous faudrait tous nous réapproprier.
C'est ça, c'est l'image de soi et l'image de l'autre qu'on ignore parce qu'on n'a pas eu effectivement d'échanges interculturels, non pas parce qu'on n'a pas voulu, mais aussi parce qu'il y a eu des structures, disons, géopolitiques, mentales aussi, qui sont développées à travers l'histoire, qui ont empêché que. Mais aujourd'hui, il faut faciliter tout ça, fluidifier tout ça. Et l'un des avantages du continent africain, pour cette fois encore, c'est également sa diaspora. Je crois que la diaspora africaine dans le monde est extrêmement, non pas seulement nombreuse, mais aussi diversifiée. Il y a des artistes, il y a des professeurs, il y a des professionnels. Et tous ces mouvements de population peuvent être des vecteurs d'échanges interculturels. Et en tant que UNESCO, nous disons que la paix dans le continent, mais aussi dans le monde, ne peut pas être pérenne, ne peut pas être durable sans, et là je cite l'acte constitutif de l'UNESCO, sans une solidarité intellectuelle et morale des peuples. Et pour ce faire, eh bien, nous pensons que l'un des moyens, c'est justement accompagner ce désir d'apprendre dont parlait la jeune fille par la culture du doute, la culture de l'interrogation, la curiosité pour l'autre. Et c'est en cela que la philosophie pour l'UNESCO est un vecteur de développement intellectuel et de curiosité intellectuelle pour l'autre.
Développer la curiosité, j'ai envie de revenir là-dessus, développer la curiosité pour l'autre, développer les questions, les points d'interrogation, c'est une question d'éducation, Mohamed Tosi.
C'est une question d'éducation, c'est une question de coopération universitaire, c'est une question de ligne de financement pour appuyer, accompagner cela. Bien sûr, l'Afrique a des atouts, et les jeunes surtout. Et les jeunes, et cette jeunesse a besoin justement d'être connectée au monde et d'y apporter aussi sa propre expérience du monde et de l'Afrique. Et je pense que on n'a pas à faire la preuve ici de sa capacité innovative, que ça soit en musique, que ça soit même dans la manière de monter aussi des opérations et faire des inventions et des innovations avec toute une capacité, non pas à bricoler, mais une capacité à confronter la rareté, à confronter.
Mais qu'est-ce qui manque plein de choses, il y a des pistes, mais on sent bien ce dynamisme, cette envie, cette culture. Ce qui manque, c'est quoi? C'est pas seulement une histoire de moyens, c'est quoi?
Non, ce qui manque, c'est d'abord, disons, la façon dont on regarde tout ça. Si on continue, par exemple, dans les reportages. Je parle de reportages par exemple de speakers de foot quand ils parlent des rencontres de la Coupe d'Afrique, de parler de jungle, de forêt, avec un arrière-fond qui est très stigmatisant de cette Afrique j'allais dire profonde. Bien sûr, on peut pas bouger. C'est-à-dire que ça, et on dissuadera les étudiants d'aller vers ces pays pour y apprendre la vie, mais y apprendre aussi des choses très intéressantes au niveau de la distribution des savoirs. Je pense que l'exemple donné actuellement, enfin le Maroc n'a pas donné d'exemple, mais disons le pari. Il y a un pari que le Maroc est en train de faire. On le voit par rapport à la chaire dont on a parlé tout à l'heure,
la
mais aussi
d'études
africaines comparées de l'UMCSP, mais on le voit aussi dans la façon que par exemple le roi du Maroc passe une semaine à Dakar. Ce n'est pas le timing d'une visite officielle dans les temps nouveaux.
C'est un signal énorme.
C'est un signal, j'allais dire. C'est là que ça se passe et que c'est quand on raisonne en termes de prise de risque au sens global. Là, le fait que avec tout ce que le statut d'un roi implique, qui passe une semaine ou qui fait 3 semaines de voyage en Afrique dans des situations qui peuvent être difficiles ou pas difficiles, c'est un parti pris. Et c'est ce type de parti pris qui peut changer un peu la mentalité.
Changer la mentalité, changer l'image de l'autre, Majida Barghash, c'est ça. Hein,
décoloniser les esprits.
Décoloniser les esprits. Ça pourrait être une chanson de Tikaja.
J'espère bien. On va y collaborer. Je crois que c'est important quand le professeur Tosi parlait de ces matchs de foot, de ces images de jungle, etc., je crois que nous revoyons à travers le prisme colonial ou le prisme du colonisateur. Quand je vois certains types de peintures ici au Maroc qui reproduisent les orientalistes, c'est le même état d'esprit. Je crois qu'il est temps de prendre conscience de sa force, de ses capacités, de cette jeunesse extraordinaire qui a tant à offrir et l'estime de soi. Où est-elle ? Comment l'a-t-on perdu?
L'estime de soi, comment l'a-t-on perdu? Je pense qu'on s'arrête sur cette interrogation pour écouter, alors non pas décoloniser les esprits, moi j'ai l'impression que vraiment, hein, d'entendre un titre de Tikenja. On va écouter Le Prix du Paradis, cet extrait Tikenja de votre dernier album qui s'appelle Dernier Appel, Le Prix du Paradis sur RFI.
Non. Les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel,
les Africains, nous voulons tous le paradis. Mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix.
Tiken Jafakoli sur RFI au Festival des Musiques Sacrées de Fès. Nous sommes avec vous, Tiken, sur ce plateau improvisé dans les jardins du musée Bata au son des oiseaux et du prix du paradis. Sur la pochette de ce dernier album, dernier appel, Tiken Ja, vous avez un porte-voix. Vous voulez vous faire entendre à tout prix par les jeunes du continent.
Absolument, on fait appel à l'unité qui est indispensable parce que l'Afrique a tout aujourd'hui pour avancer. Le climat nous a tout donné, comme on le disait tout à l'heure, la population est jeune, et donc on a tout. Maintenant, voilà, il faut l'unité. Mais je pense que, pour revenir à la question de tout à l'heure,
mais
je pense
pourquoi,
que...
Pourquoi perdu l'estime de soi, disait Majid Abargache.
Le truc, c'est d'abord le manque d'éducation, la base, c'est ça. Moi, je suis convaincu que quand la majorité des Africains sera lit et écrit, ça va tout changer. Les choses vont changer automatiquement. Je connais pas le taux exact
d'alphabétisation
sur le continent, mais monsieur de l'UNESCO pourra nous situer peut-être.
Voilà.
Mais je pense que ça passera par là. Moi, je suis convaincu. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant mes concerts et dans mes interviews, j'incite les parents mettent les enfants à l'école et j'ai dit aux jeunes de prendre l'école au sérieux. D'ailleurs, j'ai un concept qui s'appelle un conseil, une école, et nous avons construit 5 écoles sur le continent africain. Wow. 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, une école primaire au Burkina Faso, une école primaire au Niger et un collège au Mali. Et le but, c'est vraiment faire passer le message très important par rapport à l'éducation. Moi, je suis convaincu que tout viendra de là.
Et l'éducation de base, hein, l'éducation en primaire,
Oui, parce que le jour que la majorité sera alphabétisée, on comprendra tout de suite qu'on n'a pas de raison à se taper dessus, que notre vrai problème, c'est nos politiques qui sont à la tête, qui gouvernent mal. Et on oubliera nos religions, nos ethnies, et on se mettra ensemble pour mener le combat ensemble sur la place publique, comme cela se fait en Europe ou aux États-Unis.
L'espoir, hein, Sababou, c'est le titre de nos films, Tikenja Fakoli.
Moi, je suis optimiste pour l'Afrique si on passe par ce chemin de l'éducation.
De l'éducation, Penny Chantalansky.
Oui, je ne peux que saluer effectivement cette initiative que vous faites, effectivement, de lier l'art à l'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'UNESCO, par exemple, nous ne parlons pas seulement effectivement de l'éducation de base, mais il faut que y compris cette éducation de base-là soit une éducation de qualité. Qualité voulant dire bien sûr formation des enseignants, mais aussi ce que Majida a parlé tout à l'heure, c'est les compétences globales. Comment aujourd'hui l'UNESCO parle de l'alphabétisation interculturelle. Comment faire en sorte que...
L'alphabétisation interculturelle.
C'est ça. C'est-à-dire que comment faire en sorte que l'ouverture vers l'autre, la curiosité vers l'autre, l'interrogation, eh bien, s'apprenne dès le plus jeune âge pour ne pas que l'école ne soit cantonnée simplement à apprendre à lire, compter...
Et comment on apprend l'ouverture à l'autre? Comment on apprend à décoloniser les esprits, en tous les sens du terme, Majida Bargache?
Moi, je crois que pour former des citoyens globaux, il faut former les formateurs. Parce qu'on pourra toujours envoyer les gens à l'école. Si celui qui les forme a reçu lui-même une pauvre formation, on n'arrivera nulle part. Je crois qu'il faut penser, il faut réfléchir à ce qu'ont fait les autres pays. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent ici aussi sur les best practices, les meilleures réussites en termes d'éducation. La Corée du Sud, par exemple, a revalorisé le statut de l'instituteur en faisant une superstar, en le payant mieux, etc., etc. Je pense.
Donc s'inspirer. Et là, c'est du Sud, hein, pour de la Corée du Sud.
Oui.
S'inspirer d'autres.
Oui, s'inspirer des meilleures pratiques. Et évidemment commencer par la formation des formateurs. Je crois que c'est la base, parce qu'on a des universités intéressantes, mais ils reçoivent parfois des étudiants qui n'ont eu aucune formation.
Dans ce que vous dites, on entend aussi qu'il faut faire bouger les lignes, bouger les esprits et changer beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire faut s'y atteler. Il y a effectivement de quoi avoir beaucoup d'espoir, mais il faut s'y atteler. Il faut vraiment faire bouger les lignes quand même.
Oui, mais c'est une responsabilité universelle. Ce n'est pas la responsabilité uniquement des Africains. L'Afrique a une dette.
Oh là, il y a le début des répétitions au musée Bata. Mais je vous écoute, Mohamed Tosi.
L'Afrique a une dette. Il a une dette vis-à-vis du monde. L'Afrique a été saignée de ses meilleures ressources.
Elle est toujours saignée de ses meilleures ressources
humaines et ses ressources, j'allais dire, minières, agricoles. Donc on peut pas penser justement cette façon d'intégrer l'Afrique. Il faut pas oublier qu'elle est aussi et dans les politiques publiques d'aide, les grandes puissances ont diminué. Avec la crise, mais aussi sans la crise, ils ne sont jamais arrivés à le 1% promis, en diminuant leurs aides vis-à-vis de l'Afrique de moitié, la France, l'Allemagne, les États-Unis, alors que on est dans une perspective de restitution de quelque chose, de réparation de quelque chose, d'une énorme injustice. C'est pas qu'on se pose en victime, non, c'est pas la question, mais du moins une quête de justice,
une quête de justice. Donc ils disent le passé, qui disent les fautes, les erreurs.
Qui disent maintenant ce qui se passe, même actuellement, la façon de penser les politiques vis-à-vis de
l'Afrique. Elle est toujours injuste.
Elle est toujours injuste. Quand on voit la place qu'occupent les majors au niveau pétrolier, la façon dont ils se jouent. Il joue des élites politiques africaines. Je pense qu'il y a des choses à repenser aussi, les valeurs qui portent le commerce international, les valeurs qui portent l'aide internationale, les valeurs qui portent le développement. Je pense là on a mis sous le boisseau la question du développement en tant que priorité depuis une dizaine d'années pour penser le libre-échange, pour penser autre chose. Mais je pense que c'est pas des questions 18, c'est des questions qu'il faut reposer et sont très très importantes. On a parlé tout à l'heure de la place de la restitution de la reconnaissance d'une dignité. Et la dignité est un des moteurs les plus importants. C'est le manque de dignité, le manque de considération qui explique la grande réussite de Daesh au Moyen-Orient et qui attire non pas seulement des musulmans, mais attire d'autres.
Le manque de dignité, de restitution de dignité.
D'une dignité, d'une quête de justice, un lieu où on a à avoir une quête de justice. Et je pense que ces valeurs qui peuvent paraître utopiques, dans un monde qui est matérialiste, sont des valeurs à convoquer pour qu'ils structurent un peu l'horizon commun.
On va convoquer ces valeurs utopiques, ces valeurs spirituelles à Fès, ici au Festival des Musiques Sacrées, cet après-midi au Musée Bata. C'est une belle connexion. Mali, Cuba, Fatoumata Diawara et Roberto Fonseca, connexion sur RFI. Chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le pianiste cubain Roberto Fonseca sur RFI à Fès au Festival des Musiques Sacrées, au miroir de l'Afrique, une Afrique digne. Et l'Afrique, cette année, au Festival des Musiques de Fès, c'est un signe fort, on l'a dit, du Maroc, que cette connexion, reconnexion avec l'Afrique subsaharienne, mais aussi avec tous les Suds. Parce que c'est quand même, Pénit Chantalanski, l'impression qu'on a à partir d'ici, c'est que les nouvelles pistes, et puis ce nouveau monde qui doit se redessiner dans nos têtes, et qui se redessine en vrai, cette question des migrations, souvent très mal abordée, elle se passe au Sud, et elle concerne tous les Suds.
Le Grand Sud, effectivement, et ce Grand Sud-là, aujourd'hui, bien sûr, on nous questionne pourquoi vous parlez du Sud, pourquoi est-ce que dans ce projet de philosophie, vous ne travaillez qu'avec...
Philosophie Sud-Sud. Hein.
Philosophie Sud-Sud, vous ne travaillez qu'avec quatre continents, c'est-à-dire tout le monde sauf l'Amérique du Nord et l'Europe.
Tous ceux qu'on oublie d'habitude, en gros.
Tous ceux qu'on oublie d'habitude. Donc, nous disons effectivement qu'il y a une décision arbitraire à un moment pour valoriser et pour mettre un projecteur sur les oubliés.
Alors, ces oubliés, c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique, c'est l'Asie-Pacifique, la région arabe, ce que nous appelons région arabe, et qui comprend pour cette fois-ci le MENA dans les anglo-saxons, et puis l'Amérique latine et Caraïbes. Et donc, ce sont avec ces philosophes de ces régions-là que nous
dans
avons essayé
langues,
de...
Dans toutes ces langues-là.
Dans toutes ces langues, absolument. Mmh. Que nous avons voulu essayer de revaloriser le patrimoine intellectuel. Et là, professeur Tosi avait parlé de l'estime et la dignité de soi, et je crois que une des parties, mais vraiment très importante de cette dignité-là, doit passer par le patrimoine intellectuel, parce que je crois que le capital économique, il y aura toujours des gens pour s'y intéresser, il y aura toujours des grandes capitales, des grandes banques qui vont s'intéresser au potentiel économique de l'Afrique, mais qui va s'intéresser et qui pourra valoriser vraiment le patrimoine intellectuel si ce n'est les Africains eux-mêmes en termes d'habitants de ce continent.
Donc il faut le connaître, hein, ce patrimoine intellectuel,
faut le connaître.
Ce patrimoine culturel, beaucoup... ce patrimoine spirituel.
Exactement, y compris en termes d'épistémologie. Il y a beaucoup de penseurs africains qui ont pensé des systèmes différents, y compris en termes de valeurs universelles.
Qui peuvent nous donner des pistes aussi pour aujourd'hui, pour ce monde à inventer ensemble.
Exactement. Hein. Et vous savez qu'on cite également beaucoup maintenant ce qu'on appelle la charte du Mandé, qui est une charte rédigée au XIIIe siècle, à ce qui correspond au Mali maintenant, et qui stipule et véhicule des valeurs universalistes comme l'amour de la vie, la dignité, le droit. Et tout cela s'est porté déjà par, disons, le patrimoine intellectuel et éthique de l'Afrique, et qu'il s'agit aujourd'hui de faire connaître, mieux connaître et diffuser un peu dans le monde.
Tiken Jafakoli, les artistes comme vous, les musiciens, ils font énormément pour diffuser justement ce patrimoine, cette culture, et pour toucher les cœurs, les corps, les esprits, les âmes.
Oui,
on est ici à Fès, hein, au Festival des Musiques Sacrées.
Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, normalement, parlant de la charte du Mandingue, je pense que cette charte-là, elle doit être diffusée dans toutes les écoles en Afrique, mm-hmm. pour qu'on se rende compte qu'au moment où nos ancêtres écrivaient cette charte, l'Europe était au Moyen-Âge. Voilà, cela peut nous donner une certaine force, une certaine dignité pour avancer. Donc je pense que c'est très important. D'ailleurs, nous, on organisera bientôt un festival à Sibi, au Mali, donc qui est un peu la capitale qui est pas loin de la capitale de l'Empire du Mandingue. Et ça sera un rassemblement pour effectivement diffuser ce message-là.
Faire vivre cette culture-là, revivre cette culture-là.
Il y aura des conférenciers, tout ça. Et on va inviter des écoles pour que les élèves viennent écouter notre histoire, viennent apprendre un peu de notre histoire. Et je pense que cela va leur donner une certaine fierté, donc une certaine dignité.
Ce patrimoine commun de l'humanité, Magie Labargache, pour conclure.
Simplement, la première fois que j'ai entendu parler de la grandeur de l'Empire du Mali, c'était aux États-Unis dans l'école primaire de mes enfants. Je me suis sentie...
Dès l'école primaire.
Je me suis sentie fière et triste. Et pourquoi on n'en a jamais entendu parler au Maroc?
On va s'arrêter là-dessus, à Fès, au Festival des Musiques Sacrées, où l'on parle de tout ça. Merci à vous trois d'avoir partagé toutes ces pistes de réflexion, ces interrogations avec nous. Merci Tiken Jafagoli. Merci. Dernier appel, c'est le titre de votre album à écouter sans aucune modération. Merci Majida Bargache, merci Mohamed Tozzi, merci Pinit Chantalansky. Je rappelle que vous participerez tous les trois demain mercredi à la table ronde sur les enjeux contemporains de l'Afrique, et ça promet d'être extrêmement intéressant. Ce sera ici même dans les jardins du musée Bata, dans l'esprit de Fès. Merci à vous dans ce forum donc du 20e Festival des Musiques Sacrées qui nous a accueillis chaleureusement à Fès. Merci à l'équipe technique du festival, Sophia Lemtaï, Mimoun et Hamid Ambassi.
Merci à vous Caroline.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, retour à Paris pour de nouvelles questions à découvrir en esprit libre et curieux que vous êtes, amis auditeurs, avec Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci Guillaume pour ce faux direct nomade, toujours sur le fil, limite et très bien inspiré. Dans quelques instants, vous retrouvez les informations sur la Radio Mondiale.